Une nuit en diligence par le marquis de Varennes. Par une froide et neigeuse nuit du mois de décembre, je revenais d'Angers à Paris. J'étais seul dans le coupé de la diligence et je tenais beaucoup à en conserver l'entière possession jusqu'au terme de mon voyage. Dans ce désir, j'avais cherché à me mettre bien avec le conducteur et à gagner, au moyen de quelques cigares, la protection de ce personnage haut placé. Je dormais dans une quiétude parfaite quand je fus réveillé en sursaut par une fort désagréable sensation de froid. Mon traître d'homme, d'une voix enrouée, qu'il voulait rendre attendrissante, s'excusait de n'avoir pu refuser l'entrée du coupé à une dame. J'étais furieux. Je crois que dans ma colère, je l'appelais troubadour. En effet, cette dame monta et prit place dans le coin resté libre. Était-elle jeune, vieille, jolie, laide, bien ou mal faite, peu m'importait, et d'ailleurs, un chapeau, un voile, un manteau et par-dessus tout, l'obscurité, auraient mis obstacle à la satisfaction de ma curiosité sur ce point. Je cherchais donc à me rendormir. Mais le sommeil est à classer parmi ces choses rétives, volontaires et capricieuses qui veulent vous surprendre, et se refusent parfois à votre appel le plus pressant. Plus on se tourmente, moins on l'obtient. C'est ce qui m'arriva. Ne pouvant fermer l'œil, je me mis, par manière de passe-temps, à vouloir deviner quelle était la voisine que le hasard m'envoyait. Ma foi, pensais-je, cette énigme en vaut bien une autre. Gravissons le mont Citéron, et comme le fils de Laïus, présentons-nous bravement au sphinx. Après tout, si j'échoue, celui-ci ne me mangera pas. La dame demeurait silencieuse. Plus heureuse que moi, dormait-elle? Cette idée me choquait comme une injustice du sort à mon égard, puisque je devais mon insomnie à l'arrivée de ma compagne de voyage. « Eh bien, me dis-je, puisque je ne puis dormir, elle ne dormira pas non plus et nous causerons. » Cette méchante résolution prise, je baissai la glace de la voiture pour avoir occasion de m'en excuser et de lier ainsi conversation. Il faisait un froid de loup. De ridicules éternuements que le ciel m'envoya, sans doute pour me punir, me firent précipitamment revenir à de meilleurs sentiments et relever la glace. Je pris le ton le plus chaleureux possible pour demander pardon de mon inconcevable étourderie. « Oh, il n'y a pas de mal, » me répondit-elle. « Cela a renouvelé l'air. Lorsque je suis entré dans cette voiture, il y avait une détestable odeur de cigare. Deux pipes, sans doute, madame. C'est la faute de ce scélérat de conducteur. En nous parlant tout à l'heure, il avait sa pipe à la bouche. Ces gens-là, vraiment... « Pipe ou cigare, c'est tout un, je crois. »« Comment donc ? Mais pas du tout. Voilà de l'hérésie. »« Le cigare est à la pipe ce que l'homme civilisé est au rustre. »« Vraiment. »« Je vois, madame, à votre horreur du tabac, que dans les environs d'Orléans, nous ne sommes pas encore arrivés à la hauteur du siècle. »« Mais grâce au chemin de fer, bientôt le flambeau de la civilisation viendra. »« Ainsi, le cigare est, selon vous, le flambeau de la civilisation. »« Eh bien, voyez, monsieur, « personne ne se doute de cela. Moi, toute la première, on ne s'y arriérait dans le Loiret. »« Oh, madame, permettez, je ne dis pas... »« Si, si. Je suis certaine que les pauvres habitants d'Orléans vous semblent des êtres du premier âge, que vous les regardez en pitié parce qu'ils préfèrent respirer un air pur, un air primitif comme eux. Eh bien, moi, monsieur, j'envie leur sort et regrette cet âge d'or où la civilisation, puisque comme la peste, il faut l'appeler par son nom, n'avait pas encore apporté sur nos boulevards, dans nos rues et nos passages, l'odeur infecte du gaz, du bitume et du cigare, les trois plaies de l'époque. Comment, madame, vous habitez donc Paris? Peut-être, monsieur. Au moins mon amour-propre me conseille-t-il maintenant de vous le donner à penser? Oh, cela est, j'en étais sûr. Je l'avais deviné tout d'abord. Je suis un peu physionomiste. Sans y voir, et par divination, dit-elle en souriant. « Vous ajoutez, madame, au regret que j'éprouve d'en être réduit là. »« Et c'est peut-être un avantage. »« Oh, madame, vous ne pouvez être plus jolie que je me le figure. »« Ainsi, » reprit gaiement la voyageuse, « voilà la limite posée. Voyez un peu si je la dépassais. »« C'est alors, madame, que l'obscurité me serait favorable et qu'il y aurait avantage à ne pas vous voir, car j'en perdrais sans doute la tête. »« Sans doute, vous me feriez croire qu'elle a dû tourner souvent pour être si peu solide. » Mais ici, rassurez-vous pour elle. C'est-à-dire qu'il y a chez vous tout ce qu'il faut pour la fixer? Eh bien, j'accepte. Quoi? Dit-elle froidement. Mais la chance qu'un bon hasard me présente. Dites le risque, reprit-elle avec meilleure humeur. vous acceptez de bonne grâce le risque que le sort vous fait courir de passer une nuit en diligence avec une femme laide. Voilà de la résignation. Non, je maintiens que j'ai bien dit la chance, car c'en est une véritable au mois de décembre, par ce mauvais temps froid, de se rencontrer ainsi avec une femme d'esprit. Et la résignation, je le sens déjà, sera la vertu dont j'aurai besoin quand nous serons arrivés à Paris et qu'il me faudra vous quitter. Ah, permettez, vous vous contredisez en ce moment. Si vous me supposez quelque esprit, comment pensez-vous que je puisse prendre ces compliments pour argent comptant? Les compliments sont la petite monnaie du mensonge, et prenez-y garde, en dépensant ainsi à tort et à travers, on finit par toucher au capital. Croyez-vous donc, madame, que dans certaines occasions, il n'en coûte pas beaucoup de ne point dire ce que l'on pense? Vous faites de l'esprit, cela vaut mieux. Vous m'interdisez le sentiment. Le sentiment chez vous, monsieur, pousse à ce qu'il paraît comme les champignons, soudainement, dans l'obscurité. Riez, madame, mais ne croyez-vous donc pas à ces effets subis, à ces étincelles électriques, aux atomes crochus, à ces sentinelles avancées du cœur, ces éclaireurs du sentiment, ces microscopiques fondés de pouvoir qui déterminent les sympathies et les antipathies? Mais pour n'y point croire, il faudrait nier l'évidence. Que vous êtes heureuse, madame, de pouvoir plaisanter. Sur un sujet aussi grave, n'est-il pas vrai? Voyons, parlons raison. C'est avoué que vous n'avez dit que des folies jusqu'à présent. Eh, mon Dieu, madame, pensez-vous qu'il soit si facile d'être sage? L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions, parce que le diable est toujours là qui les fait tourner à son profit. Tenez, jugez-en. Voici en deux mots ce qui m'arrive. Un ancien camarade de l'école polytechnique s'avise de vouloir faire une fin, se marier, je veux dire. Ah, cela s'appelle faire une fin? Oh, c'est-à-dire, c'est une expression qui, pour faire entendre sans doute qu'après avoir bien tout examiné, passé en revue toutes les situations de la vie, on finit toujours par voir que l'on n'a rien de mieux à faire que de se marier. Ah non, l'explication est ingénieuse. On parle à mon ami d'une jeune angevine charmante. Qui voulait aussi faire une fin? Ajouta la dame en souriant. La dot était ronde. La voir, l'aimer, la dot. Non, la jeune fille. Tout cela fut l'affaire du notaire. Ma foi, oui. C'est chez lui que se fit la présentation. Et les voilà qui s'embarquent pour s'épouser à Angers. Le futur enivré de douces espérances, les malles pleines de robes, de châles, de chapeaux, et partant, la jeune fille heureuse. Nous nous étions promis, mon ami et moi, de nous servir mutuellement de témoins dans l'occasion. Il avait été le mien dans un duel, c'était à mon tour. L'affaire était grave, un mariage. Je ne pouvais m'y soustraire, et je me mis en route à la suite des bagages et d'autres utilités de la cérémonie. Il me fallait d'aussi fortes considérations pour me décider à quitter Paris dans un des plus agréables moments, et ce ne fut pas non plus sans peine que j'acceptai de joindre aux fonctions de témoin celles de garçon de noces, lesquelles m'obligeaient à faire vis-à-vis un bambin monté sur un tabouret, en tenant au-dessus de la tête des deux époux ce poêle, symbole du toit qui doit abriter leur commune existence. Mais une fois le respect humain vaincu, quand, les deux bras en l'air, il me prit fantaisie de regarder la mine que l'on faisait sous ce ciel de satin blanc, et que je vis la tranquillité de mon ami et la confiante sérénité de sa jeune épouse, je me dis « Il y a du bonheur là-dessous ». Tout à coup, une crise de conversion se déclara. Je sentis se révéler en moi la vocation la plus vive pour le mariage. Je me trouvais pénétré de la grâce efficace, ou tout au moins suffisante pour faire le meilleur des maris. J'appelais de tous mes voeux un ange pour lui dévouer ma vie. J'étais parti mauvais sujet, je revenais fidèle berger. Je comprenais la gravure des boîtes de la rue des Lombards, j'étais devenu trumeau, dessus de porte, enfin. Pour mon retour, ce que je souhaitais, il faut bien l'avouer, c'était que rien ne vint déranger mes bonnes dispositions, et pour en être plus assuré, c'était surtout de me trouver seul dans le coupé. Connaissant la faiblesse de ma jeune vertu, plante nouvellement germée, je voulais la tenir sous cloche, la mettre à l'abri des dangers qui pouvaient la menacer. Je m'étais même entendu pour cela avec le conducteur, qui s'était comporté d'abord avec une certaine intelligence, jusqu'au moment où il ouvre la portière et m'annonce une dame. Une dame, ce que je redoutais le plus. Vous montez, Je vous vois. Non, par exemple, vous ne me voyez pas. D'accord, je vous devine au moins. Patatras, voilà mon échafaudage de bonnes intentions qui croule comme un château de cartes, et le diable qui me rit au nez. Savez-vous, madame, que c'est une terrible épreuve ? En quelle année avez-vous quitté l'école ? Demanda-t-elle d'un ton calme. Mais vers 1828. Alors, vous avez dû connaître le jeune de la Suze ? Un grand blond, très bien. Je l'ai perdu de vue depuis assez longtemps, mais nous étions bons amis. Voyez comme l'on se retrouve. Je ne m'attendais pas à voyager avec un camarade de mon fils. Comment de votre fils ? Mais cela n'est pas possible. Cela est pourtant. Léon de la Suze est mon fils. Oh, j'en conviens. Il y a un peu de coquetterie à vous avoir laissé ainsi quelque temps dans l'erreur. Que voulez-vous ? C'est un travers dont une femme se guérit difficilement. Et puis, c'est votre faute. Vous m'avez donné si beau jeu. Et vous auriez joué à ravir, mais cette voix. Oui, ma foi me fait remise de quelques années. Du reste, les méchants plaisirs portent leur peine avec eux. Pendant le temps que j'ai voulu vous tromper, faire la jeune, je me suis privé de tabac. Et quand on a pris une fois cette malheureuse habitude, vous disiez ne pouvoir pas le sentir. Le tabac fumé, oui, mais le râpé, c'est bien différent. Il y a 20 ans que j'en prends. C'est mon premier mari, monsieur de la Suze, qui m'y a accoutumé. Une femme qui prend du tabac depuis 20 ans, qui a eu 2 maris et qui est mère d'un grand gaillard de fils, me dis-je avec effroi de ma méprise. Insensé de vouloir être Oedipe, c'est Jocaste que je rencontrais. Et comme pour m'enlever tout reste d'illusion, elle aspira longuement une prise de tabac. Pour la satisfaction de votre amour-propre, continua-t-elle, je vous dirai que vous n'êtes pas le seul à qui semblable chose soit arrivée. Quoique mère d'un grand garçon, je n'ai pas encore trop la taille d'une maman. Et il y a des gens, par les rues de Paris, qui ont la singulière manie de suivre les femmes d'après leur tournure. Cela n'a pas de sens commun, mais enfin cela est. On m'a fait assez souvent cet intrépide honneur, je puis le dire sans trop me glorifier, dernièrement encore. Et en vous racontant ceci, je fais un acte d'humilité, que je vous dois pour ma coquetterie de tout à l'heure. Un monsieur se mit à me suivre depuis les boulevards jusqu'à la rue du Bac. J'allais plus loin, mais arrivé là, j'eus pitié de lui, et levant mon voile, je me retournai de son côté. La figure qu'il fit en voyant la mienne, qui ne répond malheureusement pas à ma tournure, était tout ce que l'on peut imaginer de plus comique. « Convenez, monsieur, lui dis-je, que je vous rends service. » Un omnibus passait, il y sauta sans dire un mot et court encore. Le bruit de l'aspiration d'une nouvelle prise de tabac se fit entendre de nouveau. « Quant à vous, mon cher monsieur, reprit-elle, vous auriez dû faire cette réflexion toute simple, qu'une jeune et jolie femme telle que vous vouliez bien me supposer ne s'aventurerait pas à courir les grandes routes, seule et surtout la nuit. » Je ne sais si la bonne dame parla encore longtemps. Sa voix m'avait rendu Morphée favorable. Je m'endormis profondément. La diligence roulait toujours. Au dernier relais avant Paris, le conducteur ayant, du dehors, baissé la glace du coupé avec cette habileté de main et ce sans-façon que l'on sait. « Eh bien, monsieur, me dit-il, est-ce que nous ne fumons pas un cigare ce matin ? Voilà le jour qui vient, cela réchauffe. »« Si, vraiment, lui répondis-je en rouvrant les yeux. Et je monte avec lui dans le cabriolet. » La lourde voiture, après avoir brusquement traversé Paris au mépris du repos de ses habitants, fit enfin son entrée dans la cour des messageries. En descendant de mon impérial, la première personne que je vois est justement mon ancien camarade de l'école polytechnique, Léon de la Suze. Eh, mon cher, que je suis aise de te retrouver. Ce bon ami, par quel hasard ? J'arrive d'Angers, du mariage de Saint-Yves, tu sais, notre camarade à l'école, et j'ai été assez heureux pour voyager avec ta mère. Ma mère, ma femme, tu veux dire, ta femme. Oui, monsieur, si vous voulez bien le permettre, reprit la plus jolie femme du monde avec un délicieux sourire en se jetant au cou de son mari. Ah ça, où avais-tu donc les yeux ? Mais, mon ami, dans l'obscurité, répondit-elle malicieusement, on ne peut que deviner, quelque physionomiste que l'on soit. Mon cher, dit de la Suze en me serrant la main, nous ne nous sommes pas retrouvés pour nous perdre de nouveau. Viens nous voir souvent, rue Bleue, 40, à 6 heures, ton couvert sera toujours mis. Au revoir. Et ils partirent. Quant à moi, demeuré pétrifié, j'aurais pu servir de pendant à la femme de Lot, qui regardait encore longtemps après que l'ange avait disparu. Ainsi s'achève une nuit en diligence par le marquis de Varennes.